Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Du 27 juillet au 20 août, chaque dimanche, retrouvez un épisode qui a marqué le podcast. Chaque podcast a été remasterisé et remonté par nos soins pour une qualité audio optimale. On se retrouve le dimanche 27 août pour la nouvelle saison de Serial Entrepreneur qui s'annonce incroyable. J'ai hâte de vous la présenter. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bel été. Très bonne écoute. Bien bonjour Taïg, comment tu vas ?
Écoute, ça va super, et toi ?
Très bien, je suis super content de t'avoir dans le podcast.
Bah écoute également, vraiment.
Moi j'ai 25 ans, j'ai créé ce podcast en 2017, et l'idée c'était de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat en France, et du coup je suis vraiment super content de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast, puisque tu as un parcours de dingue. Ce serait difficile de résumer en quelques phrases ton parcours, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur ton palmarès.
C'est gentil.
T'es à la base un athlète de haut niveau, dans le roller, t'as été triple champion du monde de roller sur rampe.
Ouais, exactement.
T'as également été animateur télé, t'as fait de la télé aussi, Danse avec les stars, Koh-Lanta notamment. Ouais. T'as eu 12 vies en fait.
J'étais magicien, les gens le savent moins, j'étais magicien professionnel.
Et du coup, tout démarre en fait à Alger, où tu es né, d'une mère grecque et d'un papa algérien.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ces débuts, de ton enfance, de comment ça s'est passé
Bah écoute, c'est vrai que voilà, tout a évidemment démarré là-bas, mais au-delà de ça, mes parents étaient très très inhabituels par rapport à des gens, on va dire, lambda, parce qu'ils sont artistes et ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Après, je suis pas du tout contre l'école, je suis pas en train de dire il faut pas aller à l'école, mais du coup, j'ai eu une vie, on va dire, un peu de bohème et très très différente de la moyenne, parce que j'ai même pas mis les pieds dans une classe de toute ma vie, je veux dire, même pas en maternelle. On faisait l'école à la maison avec mon frère juste pour apprendre à lire, à écrire, etc. Et au-delà de ça, on voyageait dans le monde entier, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, avec des sacs à dos, en faisant du camping, de la chasse sous-marine. On a fait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. Moi, j'avais envie d'avoir un petit singe à Paris. Mes parents, ils ont dit OK, donc j'ai eu un petit singe à Paris. Donc, si tu veux, c'était toujours les choses... différent et c'était avant tout suivre les rêves et la passion. Donc j'ai eu une jeunesse incroyable de bonheur parce qu'il n'y avait aucun stress du lendemain, même si on n'avait pas d'argent, on n'était pas branché par rapport à ça, et c'était que vivre sa vie, essayer de plein de choses. Donc j'ai fait du dessin, du piano, l'école du cirque, de la magie comme je disais, du tennis pendant de nombreuses années et du roller bien sûr, et c'est le roller qui a pris le dessus, tu vois.
Donc t'as grandi avec beaucoup de liberté.
Beaucoup de liberté, vraiment.
Justement, tes parents t'ont donné cette envie de toujours être libre, finalement.
De liberté et également, si tu veux, d'énormes responsabilités. C'est-à-dire que ils m'ont dit, c'est toi qui choisis. Tu fais vraiment ce que tu veux. Nous, on va te soutenir dans ce que tu veux faire. Par contre, choisis quelque chose qui te passionne et comme ça, tu le feras à fond. Et si tu fais quelque chose pendant des années et tu as envie de changer du jour au lendemain, on va pas s'opposer, même si on a passé, par exemple, il y a eu des années où j'ai fait 6 ou 7 ans de tennis nuit et jour pour essayer de vraiment devenir champion de tennis. Et du jour au lendemain, je me suis passionné pour la rampe. Et donc, en fait, tout l'investissement, parce qu'en plus, le tennis, ça coûtait cher. Et donc, toutes les économies de mes parents partaient dans les cours de tennis qu'on payait. Et du jour au lendemain, je leur ai dit, ben voilà, je veux plus faire de tennis, je veux faire du roller sur rampe. Et bon, ben, ils m'ont dit, c'est ta passion, il n'y a pas de problème, fais-le, quoi.
Et j'aimerais, avant qu'on parle d'un peu de roller, que tu me parles de cette traversée de l'Atlantique en voilier. C'est ce qui est assez peu commun, finalement.
C'est clair. Écoute, j'ai quelques petits souvenirs, parce que j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Écoute, si tu veux, déjà, c'était un bateau de course, donc il n'est pas extrêmement confortable. Il faisait, si je dis pas de bêtises, 18 mètres. Et donc, il y avait des anecdotes assez dingues. C'est que pour suivre le cap, le capitaine, en fait, on se relayait à la barre parce qu'il fallait toujours que quelqu'un tienne la barre toute la nuit. Hein. C'est pas automatique. Et donc, il nous faisait suivre une étoile. Donc, c'était assez marrant. Donc, il nous disait, voilà, tu vois cette telle étoile dans le ciel, tu la suis. Et donc, tu passais. J'avais 10 ans. Tout le monde dormait sur le pont. Et moi, j'avais ce grand volant gigantesque. fresque et je suivais l'étoile, il fallait pas que je la loupe. Après, il y a eu d'autres anecdotes. Il y avait, je me rappelle qu'il y avait les poissons volants. C'est des poissons qui ont des ailes et qui sortent de l'eau et qui volent au-dessus de l'eau. Donc, c'est un sort de balle incroyable, magique. Et il y en a parfois, qui volaient trop haut et qui tombaient sur le pont du bateau. Et du coup, on les mangeait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anecdote? On nous attachait parfois et on se jetait à l'eau derrière le bateau. Alors, il fallait bien attacher parce que au milieu de l'océan, il faut surtout pas perdre le bateau, sinon c'est quasiment fini. Et donc, on s'attachait, on se jetait à l'eau et on se retrouvait comme ça, comme en ski nautique derrière le bateau attaché. Ça, c'était assez drôle. Et il y a eu juste une anecdote qui a failli être un drame et heureusement, ça s'est pas fait. Je dormais dans un sac de couchage sur le pont, la nuit, et on était dans une énorme tempête. Donc, quand je dis énorme tempête, c'est-à-dire que le bateau, il se retrouve quasiment à 45 degrés, avec le mât qui va toucher l'eau, etc. Et du coup, j'ai commencé à glisser, je m'en suis pas rendu compte, j'ai commencé à glisser, et j'allais sortir en pleine nuit du bateau. Donc là, c'était fini. Si je sortais, évidemment, j'aurais été mort. Et heureusement, je me rappelle plus, c'était le capitaine ou quelqu'un du bateau, m'a vu glisser et m'a attrapé in extremis avant que je sorte, parce qu'il n'y a pas de protection sur c'est vraiment un voilier de course. Donc si tu dors sur le pont et que tu glisses, tu tombes à côté et c'est fini, quoi.
Donc une expérience inoubliable,
ouais,
à 10 ans quand même. C'est fou. On accélère et on passe justement à période roller. Tu as battu tous les records. Justement, voir un peu comment tu es arrivé dans ce monde là et comment ça t'a mené vers l'entrepreneuriat par la suite.
En fait, comment ça s'est passé, c'est que j'étais le plus jeune, mon frère est un an et demi plus âgé que moi, et du coup, quand on est arrivé à Paris, il n'y avait pas vraiment de choses à faire où on pouvait retrouver des copains, vu que nous, on n'allait pas à l'école. Et justement, le Trocadéro, c'était un endroit où il y avait beaucoup de jeunes. À l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, pas d'internet, pas d'ordinateur ou de téléphone. Donc, les jeunes, quand ils finissaient l'école, se retrouvaient dans ce lieu incroyable qui était le Trocadéro. Ils faisaient du skateboard, du frisbee, du roller, etc., du vélo. Et il y avait des filles, il y avait de l'ambiance, etc. Et donc, on est passé par là par hasard et on a vu cette ambiance. Et du coup, on y est retourné tous les jours. Alors moi, j'étais plus petit, donc au début je faisais pas de roller, je faisais, tu vois, pour te dire, du Lego, j'avais 5 ans, etc. Mais c'était mon frère qui a commencé à faire du roller avec les autres copains au Trocadéro, et de fil en aiguille, en voyant tous les potes en roller, également moi j'ai dit, je veux en avoir. Et donc les premières années, ça a été vraiment plus un moyen de transport et de jeu avec les copains. Donc on faisait du roller toute la journée, à faire des chasses à l'homme, des éperviers comme on appelait, et à sauter des marches, et après à faire la quête pour récupérer un peu d'argent pour s'acheter des biscuits à l'épicier, etc. Et petit à petit, en grandissant, on a commencé à avoir l'idée de fabriquer des tremplins. Donc pour faire des sauts plus impressionnants que simplement sauter des marches, etc. Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'améliorer en roller jusqu'au jour, à vers 15 ans, où là j'ai découvert la rampe, le halfpipe. Et là, ça a été vraiment pour moi la révélation. Alors, il n'y avait plus l'ambiance des copains, des filles qu'il y avait au Trocadéro, parce que là, c'était sous une autoroute à Maison Alfort. Mais je m'en foutais. C'était pour moi là, une révélation incroyable. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je me suis entraîné comme un dingue.
Ouais, ça démarre comme beaucoup de choses d'une passion. Et puis, ça finit par quelque chose de plus professionnel.
Professionnel. Alors après, c'était pas tout de suite, si tu veux, parce que, en fait, j'ai commencé à 15 ans la rampe. Je me suis entraîné comme un dingue. J'ai commencé à avoir un super niveau. Mais à l'époque, c'était avec les rollers traditionnels. Et il n'y avait aucune mode autour de ça. Et donc, malheureusement, vers 18-19 ans, j'ai été obligé d'arrêter parce que il fallait bien gagner de l'argent. Mes parents avaient un petit restaurant, je travaillais en tant que crépier au restaurant. Et donc, j'avais la frustration, j'étais très fort en roller sur rampe, mais il n'y avait aucune compète, aucun sponsoring, il n'y avait rien. Et donc, j'avais la frustration de mettre ce rêve de côté. Et c'est marrant, tu vas voir le rebond avec déjà le côté entrepreneur qui commençait. Et donc, dans ce restaurant où je faisais les crêpes, où je faisais le service le midi, je faisais les tours de magie aux clients et je faisais ça en roller, c'était assez, assez rock'n'roll. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire de la broderie, et j'ai commencé à faire à démarrer une marque de fringues de broderie avec des designs assez particuliers. Et je me rappelle qu'il y avait un investisseur qui est passé au restaurant et qui a vu ce que je faisais et qui m'a dit, mais c'est génial ton truc, je veux investir et que tu crées ta boîte. Donc j'allais à 18 ans devenir entrepreneur avec une marque de fringues, etc. Mais à ce moment-là, vers 19, un truc comme ça, la mode du rollerblade a explosé en Europe. Et donc là, le rêve qui était effacé dans ma tête, parce que je me suis dit, je peux plus vivre avec le roller, est revenu au galop, puisque tous les copains que je connaissais en roller ont commencé à se faire sponsoriser. Et donc là, il y a eu une compétition à Bercy qui s'est organisée. Et donc là, j'ai rappelé cet investisseur. Je lui ai dit, bah, je suis désolé, je vais pas créer la boîte. Je vais repartir dans mon projet premier qui était de devenir champion de roller. Et voilà. Et donc, j'ai fait cette compétition à Bercy. Et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec un contrat de sponsoring qui me permettait de gagner plus d'argent que mes deux parents réunis. Et voilà. Et le rêve a commencé à ce moment-là.
Ce sport explose. J'ai vu pas mal de vidéos de toi ces dernières semaines dans des stades remplis.
Ah, c'était fou. Bercy. Comme on peut imaginer, un Bercy, hein, qui est l'aréna à Paris, c'est un grand stade et il était rempli. Et je l'ai fait 6 fois, je l'ai gagné 5 fois. Et c'était, ouais, comme des rockstars, je m'en rappelle. On avait, pour te dire, on faisait parfois des démonstrations et on avait généralement 3 démonstrations dans la journée avec des pauses de 2 heures ou 3 heures entre les shows. Donc on faisait un show d'une demi-heure, 2 heures de pause, un autre show d'une demi-heure. Et quand on descendait de la rampe, on était tellement... Il y avait tellement de gens qui nous sautaient dessus pour des autographes, des photos. On ne pouvait même pas bouger d'un centimètre jusqu'au show d'après, pendant 2 heures, où il fallait remonter pour faire l'autre show. Et comme ça, c'est-à-dire que toute la journée, on passait 7 heures à faire des autographes et des photos. C'était incroyable. Le monde a changé parce que, tu veux, aujourd'hui, on est dans un monde où en trois clics sur Instagram, tu vois des vidéos, tu sais même pas si parfois elles sont vraies, parfois c'est même du trucage, du montage vidéo, mais souvent c'est vrai évidemment. Mais du coup, les gens sont habitués à voir des images tellement incroyables qu'ils sont moins impressionnés. Aujourd'hui, on mettrait une rampe dans un centre-ville et on ferait des figures. Bah, il y aurait quelques centaines de personnes qui s'arrêteraient, qui regarderaient, qui diraient « sympa », qui feraient éventuellement une photo, mais
oui,
ça n'a plus rien à voir. Alors qu'avant, les gens n'avaient jamais vu des choses comme ça, donc il y avait un côté, ils avaient l'impression qu'on était des super-héros.
Aujourd'hui, tout peut devenir viral, et c'est vrai qu'à l'époque... il fallait aller dans des stades pour voir des trucs de ouf.
Ah bah oui. Nous, par exemple, les X Games, c'était la grande compétition annuelle. C'était comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Et il n'y avait qu'une fois par an où vraiment il y avait cette grosse compétition, qu'il y avait une médiatisation. Donc tous les gens qui étaient fans de sports extrêmes, ils ne pouvaient pas le voir sur Internet. Il n'y avait rien sur Internet. Il fallait prendre son billet aux X Games, y aller physiquement ou regarder sur ESPN le jour J de la compète.
Alors, on fait un saut dans le temps. On arrive en 2013 et les prémices de On-Off. Entre-temps, tu as fait beaucoup de choses. Tu as eu ton émission télé, Take Show.
Ouais.
Tu as justement été dans des émissions télé. Tu as été magicien, comme tu l'as dit. Tu as fait plein de choses.
Ouais, c'est vrai.
Ça mériterait un épisode entier sur ça.
Ils n'ont pas toujours réussi.
C'est clair. Mais...
J'ai eu même des boîtes qui ont eu des échecs, etc. Mais ce n'est pas grave. Justement, j'ai appris à chaque étape. Et ce qui était intéressant, c'est de tester plein de choses différentes et à chaque fois repartir en bas de l'échelle dans une nouvelle industrie.
On dit souvent que la réussite, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment le chemin qui te mène soit vers la réussite, soit vers l'échec, qui est en fait un apprentissage incroyable toutes les réussites du monde, quoi.
Ouais, c'est clair. Ce qui est important, c'est d'être en phase avec ses choix, de pas avoir de regrets si on fait, même si c'est une erreur. En fait, le moment où je fais le choix, je pense que c'est la bonne décision. Et après, au bout de la route, je me rends compte des erreurs que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a cet apprentissage global et en avance. Et la vie est riche. Ce qui est bien, c'est sortir aussi de sa zone de confort.
Exactement.
Souvent, les gens, quand ils entreprennent, ils restent dans leur monde. Les sportifs restent dans le sport, les gens dans la télé restent dans la télé, etc. Moi, j'avais envie vraiment de passer d'un univers à l'autre et oser partir en bas de l'échelle ailleurs, quoi.
Et donc, tu te lances dans le monde des télécoms.
Exactement. Depuis mon monde d'hôpital.
Un monde assez particulier, où effectivement, après ta blessure...
Les ligaments croisés du genou.
Exactement. Comment, justement, t'arrives cette idée et comment tu l'exécutes
Écoute, si tu veux, c'était j'arrivais au moment dans ma vie un moment où vraiment il y avait une grosse remise en question, parce que déjà j'arrivais proche de la quarantaine, je m'étais séparé de mon ex, j'avais un film que j'avais essayé de monter à Hollywood, un film que j'avais écrit, un gros film qui finalement s'était pas fait à la dernière minute. Je m'étais cassé la jambe, donc je venais de me faire opérer. Je me rendais compte que les records étaient difficiles à monter et que je pouvais pas baser toute ma vie sur des records. Je me voyais pas en tant que présentateur télé. Donc, si tu veux, j'avais toute cette remise en question. Et en plus, quand je faisais un petit regard vers le passé, j'avais eu plein de boîtes dans différents univers. Juste pour rappel, d'abord, j'ai eu un magasin de rollers. Après, je conseillais les mairies pour fabriquer des skateparks. Après, j'ai fabriqué moi-même les skateparks à faire les designs sur AutoCAD. Après, j'avais mes propres rampes que je louais avec des shows de riders. Après, j'ai eu des gammes de papeterie sous licence. J'avais acheté l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, et je fabriquais les agendas, les cahiers, les classeurs, les stylos qu'on vendait à Carrefour, Leclerc, etc. Après, j'ai eu une boisson énergétique avant que Red Bull se lance en France, comme Red Bull que je vendais pareil en grande distribution. Après, j'ai eu des biscuits chocolatés sous licence qui finalement se sont pas lancés, mais qui étaient très proches. Après, il y a eu les émissions télé. Après, il y a eu les records que j'ai coproduits. Donc, tu vois, j'ai eu plein d'expériences de business que j'ai sur des boîtes que j'ai créées à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai appris une leçon. Et donc, si tu veux, sur ce lit d'hôpital, quand j'arrivais proche de la quarantaine, je me suis dit, écoute, c'est le moment de changer de vie, de te lancer dans une industrie. Parce que le premier constat que j'ai eu, c'était de me dire, je me rendais compte que j'étais le meilleur en roller, mais je gagnais moins que le millième footballeur. Tu vois, et qu'il fallait que je sois 1000 fois plus ingénieux parce que j'étais dans une petite industrie, donc il fallait que je sois meilleur en communication, que je sois mon propre agent, que je puisse lire tous les contrats, que je puisse arriver à être mon RP, à trouver les interviews pour les journalistes. Donc, si tu veux, je me rendais compte, à la fois c'était formateur, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de métiers. J'ai appris à être designer, donc je faisais les designs moi-même pour faire les plaquettes de présentation, etc. Donc, à la fois, ça m'a appris plein de métiers, j'ai été multifonction, mais à la fois, je me disais, c'est quand même galère. Je suis dans une industrie tellement petite qu'il faut que je sois 1000 fois plus ingénieux que quelqu'un d'autre dans une grande industrie. Donc, première chose, si je dois changer de vie, je vais choisir une grande industrie. C'est pour ça que j'ai choisi Télécom, parce que je me suis dit, voilà, je serai peut-être pas le champion du monde des télécoms, mais même si je suis le millième dans les télécoms, bah, je gagnerai beaucoup d'argent et j'aurai une sécurité financière. Parce que, petite parenthèse, pourquoi la sécurité financière avait quand même une importance pour moi, c'est que mes parents étaient vraiment pas businessman pour un sou. Et quand j'ai démarré ma carrière de roller, mes parents étaient extrêmement endettés avec l'appartement hypothéqué, etc. On était à deux doigts d'être à la rue, etc. Et donc, j'ai très vite, heureusement, pu rembourser avec ma carrière de roller les dettes de mes parents. Mais j'ai pris la responsabilité familiale financièrement. Et donc, si tu veux, j'avais une vraie pression sur les épaules parce que avec le roller, on gagne pas suffisamment pour sécuriser une famille. Et donc, je me disais, bah, si je n'arrive pas à me réinventer, bah, c'est pas que moi, c'est non seulement mon futur, mais celui de mes parents, etc., etc. Donc, il faut vraiment que j'assure. Et donc, comme ça, j'ai noté 8 points qui étaient comme une sorte de formule magique sur ce lit d'hôpital. Donc, le premier, c'est choisir la plus grande industrie au monde. C'est pour ça que j'ai choisi Télécom. Le deuxième, c'est arriver à ubériser cette industrie parce que je me suis dit, les nouveaux géants sont ceux qui sont pas propriétaires des actifs, mais qui arrivent à être l'intermédiaire, comme par exemple, on regarde Uber, ils sont pas propriétaires des voitures, mais c'est le plus grand réseau d'hôtels au monde. Airbnb est le plus grand réseau Uber est le plus grand réseau de taxi, je veux dire, et Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, mais ils sont pas propriétaires des murs. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur télécom sans être propriétaire des antennes, tu vois? Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je me suis rendu compte que l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu invente quelque chose qui est plus simple et plus beau et qui facilite la vie des gens, ça va marcher. Le quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que quand j'avais eu, par exemple, l'image de Tony Parker et que j'ai perdu sa licence, j'ai eu évidemment un grand trou dans mon chiffre d'affaires. C'était un trou de 30% parce que l'image de Tony Parker était importante. Donc, je me suis bien rendu compte que je peux rien construire de solide à l'avenir si j'utilise l'image de quelqu'un d'autre ou la marque de quelqu'un d'autre. Donc, il fallait que je crée ma propre marque. Cinquième point, je me suis dit, il faut que cette marque soit vendable de la même façon dans tous les pays. Parce que, je reviens pour cette image de Tony Parker, Tony Parker était connu en France et aux États-Unis, donc ça se vendait bien dans ces deux pays. Si je voulais vendre au Japon, ben, ça marchait pas. Il fallait que je trouve le Tony Parker japonais. Donc, je me rendais compte que même si je suis propriétaire de ma marque, si la marque n'est pas la même et vendable de la même façon dans tous les pays, ça va être compliqué. Donc ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, c'était de trouver une distribution qui était tout de suite mondiale. Parce que, justement, ayant travaillé dans la grande distribution avec Carrefour, etc., je me rendais compte que, et à Carrefour, c'était moi qui faisais les ventes. C'est-à-dire que j'allais personnellement, en tant que VRP à Carrefour, négocier avec l'acheteur national pour vendre les gammes de papeterie, référencer les produits, négocier les remises arrière, RFA, PP, catalogue, etc. Donc, vu que j'ai fait ça des années, que je connaissais par cœur toute cette industrie, je me rendais compte que même si on a le meilleur produit du monde, celui qui détient la distribution, c'est lui qui détient la clé. Tu vois, et moi j'avais des super produits de papeterie, mais si Walmart aux États-Unis voulait pas les prendre, et ben les clients les verraient jamais, tu vois. Et on voit l'exemple avec par exemple le fondateur de Nike, juste pour rappel, il avait d'abord, il était le distribution d'une marque japonaise qui s'appelait Asics. Et le jour où la marque a décidé de le dégager, lui, il avait tout le réseau de distribution américain. Il a dit, quand tant qu'à faire, je crée ma propre marque. J'ai le réseau de distribution et c'est comme ça qu'il a créé Nike. Donc vraiment, la distribution était la clé. Donc je me suis dit, il faut que je choisisse une industrie où il y a tout de suite une distribution mondiale où je dois pas l'ouvrir petit à petit. Parce que pour prendre l'exemple à nouveau des gammes de papeterie, si je voulais vendre dans tous les pays, mais ça allait me prendre 10 ans quoi, de convaincre Walmart Amérique, le Carrefour japonais, israélien, chinois, c'est infernal. Et c'est pour ça que j'ai choisi le monde des applications, parce qu'avec les applications, tu donnes 30% à Apple et Google, mais tu es tout de suite dans toutes les langues et dans tous les pays. Le septième point, c'est de me dire, il faut un produit digital, parce que clairement, quand par exemple j'avais le magasin de rollers, si je voulais vendre plus de paires de rollers, fallait avoir plus de stock, plus un magasin plus grand, plus de salariés. Alors qu'un produit digital, même à 4h du matin, un dimanche soir, tu peux vendre des forfaits. Et l'huitième point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est plus facile à dire et pas à faire. Mais donc, si tu veux, c'est pour ça que ce moment de ma vie était un moment de remise en question totale, où je me suis structuré mentalement avec tout ce que j'avais appris dans ma jeunesse, et j'ai mis ça sur papier, et je me suis dit, voilà, ça c'est la base pour trouver ta nouvelle idée. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée d'un œuf, quoi.
Ouais, donc sur ces 8 points, tout coïncide avec justement la création d'un œuf.
Exactement.
Est-ce que tu peux me présenter un œuf en 2-3 phrases?
Alors, avant même de présenter un œuf, l'idée comment elle est venue dans mon cerveau, comment elle a émergé, c'est que je me suis dit, si je dois inventer quelque chose dans les télécoms, qu'est-ce qui n'existe pas? Et je me suis rendu compte qu'on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos fichiers avec Dropbox, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos mails sont dans le cloud. Et quand je dis dans le cloud, pour que les gens comprennent, c'est que, disons que t'as plus de batterie sur ton téléphone, tu peux bien regarder ton mail sur un ordinateur ou une tablette. Si tu perds ton téléphone, ton mail, tu peux quand même le lire même sur un téléphone de quelqu'un d'autre. Tu peux regarder tes films Netflix sur n'importe quel device, parce que le compte, en réalité, il est dans le cloud. Il faut juste connecter sur ton compte de cette application. Et je me suis rendu compte que le numéro de mobile, c'était pas le cas. Si tu veux, le numéro de mobile, lui, il est coincé dans notre carte SIM physique, qui est ce petit bout de plastique. C'est-à-dire que si le gars perd son téléphone ou il a plus de batterie, c'est échec et mat pour son numéro. Il faut qu'il reparte, en tout cas s'il a perdu son téléphone, qu'il reparte physiquement dans un magasin SFR ou Orange pour racheter une carte SIM. Parce que le numéro n'est pas dans le cloud. Et je me suis dit, c'est tellement un non-sens. Pourquoi, alors que tout est dans le cloud, pourquoi le numéro de mobile peut, lui, ne pas être dans le cloud? Et j'ai commencé à rêver en imaginant des expériences utilisateurs, en me disant, attends, si le numéro est dans le cloud, ça veut dire que je peux mettre le numéro dans une application, comme un Netflix pour les films. Et donc, ça veut dire que je peux en un clic acheter un numéro, mais je peux acheter 2 numéros, je peux acheter 3 numéros, je peux prendre un numéro pro, un numéro perso. Quand j'ai plus de batterie sur ce téléphone, je peux récupérer mon 06 sur une tablette, sur un ordinateur. Et moi qui voyageais beaucoup, je me disais, j'avais un petit boîtier avec des cartes SIM de tous les pays, parce qu'évidemment, quand j'étais aux États-Unis, j'avais un numéro américain, etc. Et donc, c'était galère. Dès que je sortais de l'avion, j'avais mon petit boîtier de cartes SIM et je changeais la carte SIM, etc. Et donc, je me suis dit, mais si tous les numéros sont dans le cloud, ça veut dire que si j'ai des Américains, je peux prendre un numéro de New York en un clic sur cette application sans devoir physiquement débarquer aux États-Unis. Et donc, je suis parti en mission pour essayer de fabriquer ça. Et donc, qu'est-ce que fait un œuf, si maintenant je dois le résumer en un clic? C'est une application qui s'appelle du coup On-Off, qui est téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store, qui permet d'acheter un deuxième numéro instantanément sur son portable. Donc pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM, vous téléchargez On-Off et le numéro il est à 3,50, appel SMS illimité, bam, j'achète le numéro et il est à moi pour toujours, tant que je paye, c'est tous les mois évidemment, mais je peux l'avoir pour un mois, je peux l'avoir pour une heure, et c'est un vrai numéro, c'est-à-dire que je peux créer un compte WhatsApp avec, je peux faire mes identifiants bancaires avec, je peux vendre ma voiture sur le bon coin si j'ai envie avec et après jeter le numéro. Donc c'est un vrai 06 en un clic sur son portable.
Tout simple, instantanément et,
exactement.
Et hyper accessible. Ouais. Moi personnellement, tu vois, j'ai mon numéro pro chez On-Off depuis plus d'un an maintenant.
C'est vrai, bah super, et génial, merci.
Et c'est hyper pratique, quoi. Franchement, on a tout sur le même téléphone, c'est bon, tout est nickel. On sait quand nos appels sont pro, quand on voit via On-Off, tu vois.
Ah oui, ouais.
Et c'est vrai que ça facilite pas mal.
Et j'ai essayé d'apporter, je parlais de l'expérience utilisateur, j'ai essayé d'apporter plein de petits détails pour améliorer cela. Par exemple, sur On-Off, on peut désactiver, mettre les appels en mode avion, mais quand même lire les SMS. Ouais. C'est des petits détails qu'on pouvait pas faire sur un téléphone normal. On peut écrire les SMS et les planifier dans le futur. C'est-à-dire, je veux que tel SMS soit délivré tel jour à telle heure pour un anniversaire ou ce genre de choses. On peut aussi, si on veut pas acheter un numéro dans On-Off, on peut rapatrier le numéro de n'importe quel opérateur. Donc, c'est-à-dire que si on avait un numéro, quelqu'un qui a deux cartes SIM et qui paye deux fois un abonnement et qui a son deuxième numéro pro déjà depuis longtemps et que tous ses clients connaissent ce numéro, il veut surtout pas le perdre, eh ben, il peut annuler l'abonnement chez Orange, chez SFR et porter en un clic pour 3,50€ le numéro dans l'application On-Off. Et du coup, il a plus besoin de téléphone dans la poche, il a tout en un.
Alors, il nous reste 15 minutes, donc on est un peu pris par le temps. Mais je vais te poser deux dernières questions sur On-Off. Ouais. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société? Et puis, quels vont être justement les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années?
Exactement. Écoute, alors, quelques chiffres. J'ai réussi à lever 20 millions d'euros sur On-Off. Il y a eu 10 millions avec des friends and family. Ouais. Tout le monde, j'ai convaincu tous les gens inimaginables parce que les fonds d'investissement au début n'y croyaient pas, ils pensaient pas que j'allais y arriver et donc j'arrivais à convaincre tout le monde. Je te dis, je me suis même assis dans l'avion en écho à côté d'un gars qui était même pas, c'était même pas ma place et à la fin du vol, il m'a donné 300 000 euros, tu vois. Donc j'ai été un mania du pitch et donc il y a eu 20 millions là-dessus. Donc heureusement, grâce à tout ça et au développement, la boîte est devenue rentable. Aujourd'hui, on a fait l'année dernière un peu moins de 16 millions d'euros, on fait 80 millions de SMS tous les mois, on est 120 aujourd'hui, donc ça c'est génial, la boîte elle grandit et on embauche énormément.
Alors Taïg, il me reste 4 petites questions pour toi.
Allez.
La première c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton aventure entrepreneuriale?
Écoute,
le moment le plus difficile.
Le plus difficile, ça a été le moment où j'avais fait quand même une grande partie de la route et malheureusement j'avais plus assez d'argent. Et j'avais 1 million d'euros de dette, je pouvais plus payer les charges sociales. Donc quand on en arrive là, évidemment le loyer, etc. J'arrivais encore à payer les salaires in extremis, mais plus de charges sociales, plus de loyer. La banque, je me rappelle, m'avait envoyé une lettre pour fermer le compte bancaire. Donc fermer le compte bancaire, c'est échec et mat, parce que s'il y a plus de compte bancaire, les AWS, je veux dire les serveurs, tout arrive en défaut et le service va être coupé, quoi. Et donc, je me rappelle, j'étais dans une situation où c'était extrêmement frustrant parce que j'avais déjà levé des millions d'euros, j'avais déjà une équipe de 40 ou 50 personnes, j'avais déjà des clients et je savais que la boîte pouvait devenir une boîte gigantesque. C'est comme si t'arrives au bout du tunnel, tu vois la lumière et que les derniers 100 mètres, et c'est là où tu t'effondres. Tu vois, et donc c'était horrible parce que si je trouvais pas d'argent, si je trouvais pas des fonds, bah clairement ça allait s'arrêter. Et je me rappelle que j'ai appelé des copains à ce moment-là, pour des copains qui se retrouvaient dans des situations comme ça, pour leur demander qu'est-ce que je devais faire quand les huissiers vont venir et que je vais devoir quelles sont les répercussions, les risques, etc. Et je me rappelle, il y a un copain qui a eu, un entrepreneur, un grand entrepreneur qui s'est retrouvé parfois dans des situations difficiles. Il m'a dit, écoute, tu payes les salaires, parce que évidemment les gens faut les payer, mais tu payes plus personne d'autre, et vraiment le jour où les huissiers sont à ta porte, là tu leur fais un petit chèque, mais que quand ils sont à ta porte. C'était assez drôle, mais après il y a aussi des risques, parce que moi en tant que président, si je fais une faute de gestion, parce que, je veux dire, quand t'es en cessation de paiement et ce genre de choses, il faut prendre un administrateur normalement. Et si je tarde trop à prendre un administrateur, je peux me retrouver légalement responsable en tant que faute de gestion. Donc voilà. Donc là, c'était dur. Là, c'était dur. C'était vraiment dur. Et c'était dur parce que je devais trouver des fonds auprès d'investisseurs et évidemment pas leur mentir. Et donc, si tu veux, quand tu es dans une situation catastrophe et que tu as 1 million d'euros de dette et que tu vas voir un investisseur et que tu essayes de le motiver pour qu'il investisse chez toi, mais qu'à la fois, il ne faut pas que tu lui mentes sur la situation de la boîte, c'était un peu schizophrène, cette situation. Donc, voilà, c'était très, très, très dur. Mais heureusement, j'ai trouvé des fonds à droite, à gauche. Voilà.
Et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ?
Écoute, je suis fier de chaque étape, que chaque page que j'arrive à tourner. Évidemment, le rêve de carrière de roller, d'être champion du monde, c'était ma plus grande victoire personnelle, parce que c'était un rêve de gamin, et c'était à l'arrivée en haut de l'échelle mondiale d'un rêve et d'une discipline. Mais une fois qu'elle était tournée, je me suis dirigé vers d'autres rêves et la Tour Eiffel également, et d'entreprendre dans un milieu qui a rien à voir avec mon autre univers. Si tu veux, au début, quand j'ai démarré en off, personne n'y croyait, et même mieux que ça, quand j'en parlais dans des dîners ou quoi que ce soit, les gens rigolaient autour de la table, pensaient que je leur faisais une blague. Si tu veux, quand les gens me disaient « mais qu'est-ce que tu fais maintenant ?» J'ai dit « bah écoutez, je viens de créer un opérateur télécom. » Réellement, j'ai eu cette situation où tout le monde rigole en pensant que je faisais une blague. « Ah, très très drôle, non mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Tu comprends ? Donc si tu veux, normalement, en fait, souvent quand les gens entreprennent, ils ont rencontré quelqu'un là-dedans, ils ont un co-fondeur, ils ont fait des études là-dedans, ils ont baigné dans cet univers, et c'est très très rare de vraiment partir tout seul sans argent, sans rien connaître, sur son lit d'hôpital dans un... Mais comme quoi, ça montre que c'est possible, et ça montre qu'avec, voilà, du travail, de la persévérance, de la remise en question, on peut y arriver, et quel que soit son rang social, puisque voilà, moi j'avais aucune éducation, pas une éducation mais aucun diplôme, etc. Donc ça, c'est hyper encourageant, et j'adore transmettre tout ce genre de choses, tu vois. Je le fais souvent dans des conférences.
Ici.
Exactement, ici. Voilà, parce que quand on a eu toutes ces galères, ben on a des anecdotes, comment pas craquer les moments difficiles, quoi.
Ouais, justement, cette question d'après est reliée à tout ce que tu viens de dire, puisque c'est: quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Écoute, le conseil que je peux donner, c'est souvent, les entrepreneurs, ils sont un petit peu fous, ils croient en l'impossible, et heureusement, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire bouger les montagnes. Et donc souvent, les gens qui n'entreprennent pas essayent de rationaliser tout ça, et peut-être tirent un peu trop vers le bas les rêves de ces entrepreneurs. Et c'est bien d'y aller, et il faut y aller, et même si ça rate, c'est pas grave, on rebondira. Et si tu veux, souvent, je vois autour de moi que quand des gens veulent entreprendre, eh ben, leur entourage ou l'industrie ou quoi que ce soit leur dit: mais attends, tu sais, t'y connais rien, c'est difficile, c'est impossible, t'as pas d'argent, etc. C'est compliqué, etc. Et donc, avant même de démarrer, ils sont assommés par une montagne de problèmes. Moi, je suis partisan d'apprendre en marchant. En réalité, c'est-à-dire d'avoir le rêve au loin de l'étoile que tu veux suivre. C'est-à-dire, tu te dis, bah, je veux créer une multinationale, je veux faire ça. Et ça, c'est ce qui te fait lever le matin, tu fonces, etc. Comme un acharné à voir ça. Et simplement se concentrer sur les problèmes à 24 heures et pas plus de 24 heures. Donc, si tu veux, cette façon, cette philosophie, moi, me permet de jamais être démoralisé, puisque j'imagine jamais les problèmes à plus de 24 heures. Tu comprends? Donc, je sais que ça va être difficile, et heureusement que j'avais cette mentalité quand je devais lever des fonds, parce que imagine, pendant 4 ans, j'avais 250 000 euros à trouver tous les mois, et j'avais jamais un mois d'avance. Et donc, si je trouvais pas les 250 000 euros le 23 du mois, globalement, j'avais 40 personnes au chômage et tout le reste s'effondrait. Donc, en termes de pression, tu peux très très vite arriver dans une pression incroyable de dire: oulala, mais comment je vais faire? Dans 23 jours, si je trouve pas l'argent, c'est catastrophique. Et le fait de me dire: garde la tête froide, tu te dis que tu vas y arriver, et juste concentre-toi, à faire le maximum. Et si jamais le 23 du mois, tu n'y arrives pas, bah, tu verras ce moment-là quelles sont les dispositions que tu dois prendre, tu vois. Donc, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est déjà oser voir les choses vraiment grandes. Vraiment, parce que je reviens sur ce point, j'étais le meilleur enrôleur, mais je gagnais moins que le millième footballeur. Donc, si vous voulez créer une boîte, choisissez une grande industrie, donnez-vous les moyens, et c'est pas plus difficile d'être dans les télécoms ou d'ouvrir un restaurant en bas de la rue. C'est n'importe quel projet est une galère. Je sais, mes parents ont eu un restaurant pendant 7 ans. C'est difficile d'avoir un restaurant également, tu vois. Donc voilà, osez voir les choses en grand, soyez passionnés, travail évidemment acharné, remise en question perpétuelle. Et ça, c'est important parce que être entrepreneur, c'est, je le vois dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, les fonds d'investissement font beaucoup plus confiance aux entrepreneurs que à l'idée. Parce qu'ils se disent, si même l'idée, elle est pas bonne, si l'entrepreneur, il est performant, il saura pivoter, rebondir, etc. Alors que si l'entrepreneur est très, il a des œillères et il est trop sur son idée, il pense toujours avoir raison, etc., etc., bah, il va aller dans le mur, tu vois. Donc, tout ça réuni, c'est un travail quotidien et c'est un travail génial.
Et pour conclure, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Bah écoute, pour moi, un entrepreneur, c'est un rêveur qui voit une amélioration dans notre société. Je dirais pas un problème, c'est en tout cas quelque chose qui peut être amélioré et qui imagine. C'est un peu un inventeur. Et évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont des très très bons gestionnaires, etc. Mais pour moi, l'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui invente quelque chose. Et après, dès qu'il y a la gestion du quotidien, souvent les fondateurs, ils ont des associés qui le font. Après, il y en a qui font les deux, qui sont des gestionnaires du quotidien incroyables. Mais c'est avant tout cette sorte de visionnaire et inventeur.
Eh bien, Teig, merci beaucoup pour cette conversation.
Écoute, merci.
On est dans le timing. J'étais très content de t'avoir dans Serial.
Également.
Aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, tout.
Ouais, évidemment, hein, sur tous mes réseaux.
Et puis sur Unoff aussi.
Sur Unoff, n'hésitez pas également. Et sur Album aussi, puisque j'ai aussi créé cette application qui est une sorte de Google Photo qui s'appelle Album, qui est une application gratuite que les gens peuvent télécharger.
Super.
Donc voilà.
Bah, bientôt sur Serial Entrepreneur.
Merci.
Salut, Teig.
Merci, salut.